Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 10 janvier 2023. Avec vous, Eric Manila-Kilza, voici d'abord le sommaire. Au Gabon, le président Ali Bongo nomme un nouveau premier ministre à 8 mois de la présidentielle. Au Nigeria, l'insécurité menace la tenue des élections, affirme la commission électorale. Le président rwandais Paul Kagame déclare que son pays ne peut plus accueillir de réfugiés de RDC. Au Sénégal, interdiction des voyages nocturnes après un accident meurtrier. Le président américain Joe Biden au Mexique pour réchauffer la relation bilatérale en vue de faciliter la coopération sur l'immigration, le trafic de drogue et le commerce. En Arabie Saoudite, pas de limite sur le nombre de pèlerins cette année au Hajj après 3 ans de restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Également dans cette édition, les sports de Yacouba Ouédraogo, le gardien et capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, annonce sa retraite internationale. Le Burkina lève 173 milliards de francs CFA sur le marché financier sous-régional pour la mise en œuvre des projets inscrits dans le budget national. On en parle dans notre actualité économique, mais d'abord le journal. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a nommé hier lundi Alain-Claude Billy Bienzé au poste de Premier ministre en remplacement de Rose Christiane Osuka-Raponda, nommée vice-présidente de la République. Le point avec Rosine Munezero.
Monsieur Billy Bienzé, 55 ans, a détenu plusieurs portefeuilles ministériels depuis 2006. Il était vice-premier ministre et ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques du gouvernement sortant. Madame Osuka-Raponda est nommée vice-présidente, un poste vacant depuis mai 2019, dont la fonction est d'assister le chef de l'État et qui n'a aucun rôle d'intérim en cas de vacance du pouvoir. Madame Osuka-Raponda, 59 ans, ancienne maire de Libreville et ministre de la Défense, avait été nommée en juillet 2020. Aucune raison n'a été donnée à ce changement à la tête du gouvernement. Alain-Claude Billy Bienzé, un fidèle et un poids lourd de la politique gabonaise, avait été aussi ministre des Affaires étrangères, conseiller politique et porte-parole de M. Bongo. Il est considéré comme un proche du chef de l'État qu'il a choisi à la tête de son gouvernement à 8 mois de la présidentielle. Ali Bongo a été élu pour la première fois en 2009 après la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le Gabon pendant plus de 40 ans. Réélu en 2016, Ali Bongo, 63 ans, est largement pressenti pour être le candidat en 2023 du tout-puissant Parti démocratique gabonais.
Au Nigeria, l'élection présidentielle prévue fin février pourrait être annulée ou reportée si le niveau actuel d'insécurité persiste dans le pays, a prévenu hier la commission électorale. Si on ne parvient pas à surveiller et faire baisser l'insécurité, cela pourrait déboucher sur l'annulation et ou le report des élections dans assez de circonscriptions pour empêcher la proclamation des résultats, a déclaré Abdoulaye Abdou Zourou, un des responsables de la commission lors d'une rencontre à Abuja. Ce scénario pourrait alors provoquer une crise constitutionnelle, de la nécessité de l'éviter à tout prix, a-t-il estimé. Toujours au Nigeria, des hommes armés ont enlevé plus de 30 personnes, dont certaines ont pu ensuite être libérées lors de l'attaque d'une gare dans le sud du pays, ont annoncé hier la police et les autorités locales. Au moins 24 personnes ont été tuées dimanche par des miliciens dans plusieurs villages d'Ituri, province du nord-est de la RDC, en proie à des violences communautaires, ont indiqué hier soir des sources civiles locales. Le Rwanda ne peut plus accueillir de réfugiés en provenance de République démocratique du Congo, en proie dans l'est aux violences et de nombreux groupes armés, a déclaré hier lundi le président rwandais Paul Kagame. C'est le dernier épisode des vives tensions entre Kigali et Kinshasa. Mohamedou Oumfa.
Nous ne pouvons pas continuer à accueillir des réfugiés en provenance de RDC, a déclaré Paul Kagame devant le Sénat Poursuivant, ce n'est pas le problème du Rwanda et nous allons faire en sorte que tout le monde se rende compte que ce problème n'est pas celui du Rwanda. Je refuse que le Rwanda supporte ce fardeau, a-t-il ajouté. Dans l'est de la RDC, les combats entre forces gouvernementales et rebelles du M23 ont exacerbé les tensions avec le Rwanda voisin que Kinshasa accuse de soutenir les rebelles. Ces violences ont poussé de nombreux Congolais à se réfugier dans les pays voisins. Selon le HCR, le Rwanda comptait en novembre 2022 quelque 72 000 réfugiés congolais. Pour sa part, Kigali a à plusieurs reprises a imputé la responsabilité de la crise aux autorités de Kinshasa accusées de complicité avec les FDLR, des rebelles Hutu rwandais. Des initiatives diplomatiques ont été lancées à Luanda et à Nairobi pour tenter de résoudre la crise de l'Est de la RDC où une force régionale est-africaine dirigée par le Kenya est en cours de déploiement.
Le gouvernement sénégalais a annoncé ce mardi de nouvelles mesures pour lutter contre l'insécurité routière après un accident qui a fait 40 morts dimanche. Les véhicules de transport public de voyageurs seront interdits de circuler sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin, a annoncé le Premier ministre Amadou Ba. D'autres mesures interdisant l'importation de pneus d'occasion et rendant obligatoire le plombage des compteurs de vitesse des véhicules de transport de personnes et de marchandises à 90 km à l'heure ont également été annoncées. Lors de cette réunion, des arrêtés seront pris d'ici 72 heures pour rendre exécutoires les 23 nouvelles mesures annoncées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador ont voulu hier afficher une relation cordiale lors d'une rencontre à Mexico. Néanmoins, les tensions entre les deux grands voisins et partenaires stratégiques ne sont pas dissipées pour autant. Yacouba Ouedraogo.
Joe Biden et Andrés Manuel López Obrador ont échangé une chaleureuse poignée de main lors d'une cérémonie d'accueil au Palais national, siège de la présidence. Ils ont été rejoints par leurs épouses Jill Biden et Béatrice Guterres dans une grande accolade. De quoi laisser penser que la brouille de juin dernier, quand le président mexicain avait boudé un sommet organisé à Los Angeles, s'était estompée. Les deux chefs d'État se sont entretenus, selon la Maison-Blanche, de la manière d'avoir une approche innovante face à l'immigration clandestine et ont promis de s'attaquer aux racines du phénomène dans les pays d'origine. Ils ont par ailleurs exprimé la volonté d'accroître leur coopération en matière de lutte contre le trafic de drogue et en particulier de fentanyl puissant opiacé qui fait des ravages aux États-Unis. Ils ont réaffirmé leur engagement dans le cadre de l'accord de libre-échange qui lie leurs deux pays ainsi que le Canada. La journée de lundi s'est conclue par un dîner avec Justin Trudeau et les épouses des trois dirigeants. Les échanges ce mardi devraient faire la part belle au sujet économique.
Des documents classés confidentiels datant de la vice-présidence de Joe Biden sous Barack Obama ont été retrouvés dans les locaux d'un cercle de réflexion de Washington que l'actuel président a parfois utilisé comme lieu de travail, a indiqué lundi la Maison-Blanche. Des avocats de Joe Biden ont découvert les documents en novembre en vidant ces locaux et les ont remis aux archives chargées de préserver ce type d'actes. Le chef de l'État brésilien Lula et du Congrès de la Cour suprême ont affirmé avec force le besoin de démocratie au Brésil au lendemain des invasions et de saccages de trois lieux de pouvoir emblématiques de Brasilia par des bolsonaristes déchaînés. L'Arabie saoudite n'imposera pas de limite sur le nombre de pèlerins cette année au Hajj prévu fin juin après trois ans de restrictions liées à la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a annoncé hier lundi un ministre saoudien, Abdurrahman Dia.
Selon le ministre du Hajj, Tufik al-Rabiha, le nombre de pèlerins reviendra à ce qu'il était avant la pandémie sans aucune limite d'âge. L'année dernière, près de 900 000 fidèles, dont quelque 780 000 étrangers tirés au sort, ont été accueillis à la Mecque, le premier lieu saint de l'islam, à condition d'être âgés de moins de 65 ans, d'être vaccinés et de présenter un test PCR négatif. En 2021, pour limiter la propagation du virus, seuls 60 000 résidents d'Arabie Saoudite avaient été autorisés à faire le grand pèlerinage annuel et à peine un millier l'année précédente contre 2,5 millions de musulmans du monde entier en 2019. Les revenus générés par les pèlerinages en Arabie Saoudite sont de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. L'un des cinq piliers de l'islam, le Hajj, consiste en une série de rites devant être accomplis sur cinq jours à la Mecque et dans la région avoisinante de Médine par tout musulman qui en a les moyens au moins une fois dans sa vie.
Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Claire Morin-Zibour dans sa Minute Éco.
Le gouvernement de transition burkinabé a levé 173 milliards de francs CFA sur le marché financier sous-régional pour les projets inscrits dans le budget national. Le ministre de l'économie, Aboubakar Nakanabo, s'est réjoui du réel engagement des investisseurs. C'est le tout premier emprunt obligataire du gouvernement de transition au pouvoir depuis septembre 2022. L'université marocaine Mohamed VI Polytechnique et l'école polytechnique fédérale de Lausanne ont annoncé le lancement d'un nouveau master sur les stratégies des smart cities en Afrique. Ce programme se focalise sur la conception, la mise en place et le suivi des stratégies des villes intelligentes adaptées au continent africain, maillon central du développement sur le continent. Le gouvernement britannique conservateur a tenté d'apaiser la colère sociale grandissante face à la crise du coût de la vie en recevant hier les syndicats sans réussir à enrayer les grèves qui durent depuis des mois pour réclamer des hausses de salaire.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo. Bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Yacouba, nous ne sommes plus qu'à 3 jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023.
Oui, certaines équipes qualifiées pour ce CHAN multiplient les matchs de préparation. Surprise à Tunis où la Côte d'Ivoire s'est vue battre par la Mauritanie 3-0 en amical. Auparavant, les éléphants locaux se sont imposés contre la Libye 1-0 et ont fait match nul face au Cameroun 1-1. Par contre, le Sénégal a arraché la victoire 1-0 devant le Congo. Le Cameroun a pris le dessus sur le Soudan 2-0 à suivre ce mardi Mali-RDC. La compétition aura lieu en Algérie du 13 janvier au 4 février prochain.
Et Hugo Lloris prend sa retraite internationale.
Le gardien et capitaine de l'équipe de France et joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, 145 sélections, range les gants en équipe nationale. Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après 14 années à défendre ce maillot, je crois que je suis arrivé au bout, affirme le portier de 36 ans, finaliste du Mondial 2022, il y a seulement 3 semaines au Qatar. International depuis 2008, Lloris s'est vu confier le brassard par Laurent Blanc. L'actuel sélectionneur Didier Deschamps en a fait un homme de base de l'équipe de France avec un point d'orgue, une finale d'Euro en 2016, le titre mondial en 2018 et une nouvelle finale en Coupe du Monde le 18 décembre dernier, perdue contre l'Argentine.
Ici aux États-Unis, 4 entraîneurs ont banni à vie dans le foot féminin. De quoi s'agit-il, Yacouba?
Paul Riley, Christy Holly, Rory Dennis et Richie Bokey sont bannis à vie de la Ligue nord-américaine de football féminin pour avoir agressé sexuellement des joueuses. Riley, ancien entraîneur des Portland Thorns, a été accusé par 2 joueuses d'avoir contraint la première à des relations sexuelles non consenties et d'avoir harcelé sexuellement la seconde. Holley, qui dirige le Racing Louisville, a été licencié après avoir été accusé d'agression sexuelle et d'attouchement sur une joueuse. Demes, ex-coach des Red Stars de Chicago, a été banni pour les mêmes accusations. Enfin, Bourki, qui était à la tête du Washington Spirit, s'est vu reprocher son attitude de verbalement stigmatiser l'ethnicité de joueuse.
Toujours ici aux États-Unis, Damar Hamlin a quitté l'hôpital de Cincinnati.
Le joueur des Buffalo Bills est sorti de l'hôpital lundi, une semaine après avoir subi un arrêt cardiaque pendant un match du championnat de football américain. L'annonce a été faite par le centre médical de l'Université de Cincinnati, où il avait été admis. Le joueur de 24 ans s'est envolé pour Buffalo, dans l'État de New York, où il va poursuivre sa convalescence dans un autre établissement hospitalier. Damar Hamlin a été victime d'un arrêt cardiaque lundi dernier, suite à un terrible choc à la poitrine subi en plaquant un adversaire lors du match de saison régulière contre les Cincinnati Bengals.
C'était les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Mangrakidza, sur le dossier du jour. 40 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors d'une collision entre deux bus dans la nuit de samedi à dimanche au Sénégal. Cet accident, le plus meurtrier, a fait aussi plus d'une centaine de blessés, dont certains dans un état grave. Le président sénégalais Macky Sall a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce lundi. Les Sénégalais meurtris par ce drame demandent des changements de comportement. Un conseil interministériel s'est tenu hier pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Avec près de 40 décès enregistrés, c'est d'après les autorités l'accident de la route le plus meurtrier enregistré au Sénégal. Un triste record qui inquiète grandement Mor Faye, qui dit avoir peur pour sa vie dans les transports en commun.
Là, je le dis sincèrement, j'ai peur et je ne le cache pas, surtout avec ces accidents. Les causes sont nombreuses pour moi, car maintenant, quelqu'un se lève du jour au lendemain pour se dire chauffeur sans même avoir les compétences requises. Ils n'ont ces papiers que grâce à la corruption.
Mbaye Niang est camionneur. Il admet que les chauffeurs ont une part de responsabilité dans ces accidents et que l'État se doit d'être plus ferme.
Je l'accepte. Nous savons que nous ne sommes pas exempts de tout reproche car nous, conducteurs, avons quelquefois un comportement irresponsable. Au lieu de nous concentrer sur la route, certains sont focus sur leur téléphone ou ne se focalisent pas sur leur volant ou alors sur la route alors que le chauffeur a besoin d'être concentré.
Mor Faye, lui, veut que les forces de l'ordre soient beaucoup plus fermes dans l'exercice de leurs fonctions car jouant un rôle important dans la régulation des routes.
Les policiers ou gendarmes qui gèrent la route aussi doivent être plus rigoureux car maintenant les chauffeurs passent les contrôles sans souci, juste en donnant de l'argent à ces forces de défense et de sécurité, ce qui est anormal. Ces hommes détenus doivent être beaucoup plus rigoureux.
Près de 40 morts et plus de 100 blessés, un bilan qui fait froid dans le dos des citoyens sénégalais qui réclament plus de vigilance et de fermeté dans la délivrance des permis de conduire et dans la gestion de la sécurité routière. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Tous les yeux sont tournés vers le Nigeria alors qu'il se prépare pour ses élections générales début de 2023. La présidentielle se tient le 25 février avant celle des gouverneurs. L'un des sujets les plus débattus est l'état et le sort de la transition démocratique imminente dans un contexte de détérioration de la sécurité nationale. Le gouvernement a-t-il les moyens d'organiser des élections paisibles malgré les promesses? Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Le Nigeria a connu une vague d'engagement civique et politique de la part de ses populations en général et de ses jeunes en particulier avant l'élection présidentielle du 25 février prochain. Cependant, la préparation de ces élections a été entachée de violences politiques et de troubles. Il y a eu plusieurs attaques contre les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante dans certains États. Beaucoup de Nigériens sont ainsi préoccupés dans un contexte de détérioration de la sécurité au plan national. Mais le professeur Kamilou, enseignant en sciences politiques à l'université de Kano, croit à une transition malgré ces menaces.
Je suis très optimiste que la transition sera possible. Ça pourrait ne pas être possible comme on le pense. Il pourrait y avoir quelques troubles dans certains endroits, mais considérant nos observations, les élections vont se tenir.
L'insécurité au Nigeria, principal enjeu de cette présidentielle, fait l'objet de débats intenses entre les différents prétendants. Près de 89% des Nigériens estiment que le pays va dans la mauvaise direction et 77% sont insatisfaits de la manière dont le processus démocratique est pratiqué.
Ce qui est à l'origine de tous ces problèmes, quand vous entendez parler des agitations pour telle ou telle autre chose, pour ce qui me concerne, c'est l'injustice. Vous ne pouvez pas donner naissance à 10 enfants et pendant Noël, vous faites des achats pour 9 enfants seulement. Celui pour lequel vous n'avez pas acheté va commencer à réclamer sa part.
Le Nigeria a connu ses antécédents depuis plus de 20 ans de notre système électoral. Nos élections sont toujours caractérisées par la violence, donc le gouvernement et les autres acteurs devraient mettre en place un mécanisme pour déterminer les causes de ces violences électorales avant même ces élections.
Des élections crédibles n'ont jamais été gagnées d'avance au Nigeria et des menaces supplémentaires de plusieurs groupes armés posent problème. Kabiru Adamu est expert en sécurité.
Il y a eu une menace pour les élections de 2023, mais le côté positif est que la commission électorale, l'organe qui organise les élections dans ce pays, dispose d'une plateforme appelée la commission de consultation interagence sur la sécurité électorale. Elle est composée de 15 ou 16 départements gouvernementaux, dirigés par l'inspecteur général de la police nationale et le conseiller à la sécurité nationale. Ils sont au courant de ces menaces et j'espère qu'ils s'en occuperont avant l'élection.
Au total, 18 partis politiques vont participer, dont le parti au pouvoir, le All Progressive Congress, APC, et le parti d'opposition, le People's Democratic Party, PDP, qui vont se disputer âprement chaque siège. Pour la première fois dans l'histoire du Nigeria, il n'y aura pas d'anciens dirigeants militaires en liste pour le scrutin présidentiel. Le président Muhammadu Buhari, en poste depuis 2015, termine ses deux mandats et ne peut pas se représenter. Gilbert Katamba Abuja pour VOA Afrique.
Le président américain Joe Biden a visité la ville frontalière d'El Paso au Texas dimanche après-midi, avant de se rendre à Mexico pour y rencontrer des dirigeants nord-américains. Il s'agit du premier voyage de M. Biden à la frontière du Sud-Ouest depuis son entrée en fonction. Aline Barros, journaliste de VOA spécialisée dans l'immigration, nous en dit plus. Récit signé Dilidico.
Pour son premier voyage en tant que président dans la région frontalière avec le Mexique, M. Biden a visité un port d'entrée très fréquenté et discuté avec des agents de la patrouille frontalière le long du mur qui sépare les États-Unis du Mexique. Bien que le président ait visité un centre local pour migrants, c'est la première fois qu'il est aussi près d'un endroit où environ 400 migrants se sont réfugiés sur les trottoirs d'une église d'El Paso au Texas. Écoutons Jérémy Mejia, un migrant du Venezuela.
J'ai deux enfants. Je veux leur offrir une meilleure vie. Je ne veux pas qu'ils subissent ce que j'ai subi. Ici, nous avons été victimes de vols et de maltraitances. Il n'y a pas de droit de l'homme pour nous ici.
La visite de M. Biden à la frontière américano-mexicaine fait suite à l'annonce par son administration d'un nouveau processus d'entrée légale pour les migrants originaires du Nicaragua, de Cuba, du Venezuela et d'Haïti. Le gouvernement a également élargi l'application de la loi à la frontière pour permettre le renvoi immédiat au Mexique des migrants de ces quatre pays entrés aux États-Unis sans autorisation. Alejandro Mayorkas, ministre de l'Intérieur, explique.
Effective immediately, citizens from Venezuela, Nicaragua.
Dès maintenant, les citoyens du Venezuela, du Nicaragua, de Cuba et d'Haïti qui tentent de traverser notre frontière sans autorisation seront rapidement expulsés vers le Mexique et qui acceptera le retour de 30 000 personnes n'ayant pas utilisé les nouvelles voies d'accès aux États-Unis et dans leur pays d'origine. En même temps, nous accueillerons jusqu'à 30 000 personnes par mois en provenance de ces quatre pays pour qu'elles viennent en toute sécurité et vivre et travailler ici pendant 2 ans.
Dans le cadre du nouveau programme légal, les migrants de ces quatre pays doivent faire une demande en ligne, trouver un sponsor financier et passer des contrôles de sécurité pour avoir une chance de vivre temporairement aux États-Unis. Ceux qui se trouvent déjà à la frontière sont donc dans l'incertitude et craignent d'être détenus par les agents de la patrouille frontalière. À nouveau, Jérémy Mejia, migrant vénézuélien.
Nous ne pouvons pas traverser la rue car les agents de l'immigration peuvent nous arrêter.
Les républicains continuent de critiquer l'approche du président Biden en matière de sécurité aux frontières. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a remis au président une lettre avec ses recommandations en matière de sécurité frontalière. Greg Abbott, gouverneur républicain du Texas.
Ce n'est rien d'autre que du spectacle, à moins qu'ils ne commencent à appliquer les lois sur l'immigration qui existent déjà aux États-Unis et qui sont contenues dans la lettre qui est fournie au président aujourd'hui.
D'autres estiment que les nouvelles politiques sont trop sévères et vont à l'encontre des lois actuelles sur l'asile. Fernando Garcia du réseau frontalier pour les droits humains.
Je ne pense pas que le président aura le temps de comprendre ce qui se passe ici à la frontière. Nous aurions souhaité qu'il ait plus de temps et avant l'annonce de tout plan, nous aurions voulu qu'il puisse rencontrer les gens ici à la frontière. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait.
Alors que le président Biden se dirige vers sa prochaine étape, les responsables gouvernementaux affirment que les nouvelles mesures frontalières ne constituent pas une entrave à l'asile, car les demandeurs d'asile peuvent toujours demander de l'aide au point d'entrée.
This is the voice of America. Washington,
maintenant que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a finalement prêté serment, les législateurs républicains peuvent commencer à travailler sur leur agenda. Veronica Balderas Iglesias jette un coup d'œil sur ce qu'ils cherchent à accomplir et les barrages qu'ils prévoient pour l'administration Biden. Le récit avec Pierre-Maurice Gibourg.
Après 4 jours d'âpres discussions, de négociations de couloirs et 15 tours de vote, finalement, le républicain Kevin McCarthy est devenu président de la Chambre des représentants. Il a promis à ses collègues républicains et au peuple américain de contrôler l'administration Biden.
Nous allons demander des comptes sur le retrait de l'Afghanistan, sur les origines du Covid et sur l'utilisation du FBI comme arme contre des adversaires.
La nouvelle position de McCarthy s'accompagne d'une série de concessions à ses détracteurs républicains qui vont maintenant façonner son leadership. Rien qu'un seul membre de la Chambre basse du Congrès pourrait demander une élection interne pour le faire tomber du perchoir. Lors d'une interview à l'émission ABC This Week, le représentant républicain Andy Barr a minimisé l'impact potentiel de cette mesure.
Nous ne faisons que revenir à la règle qui est en vigueur depuis 1910, bien avant Pelosi. Je ne pense pas que ce soit un problème pour créer le chaos.
Même si l'unité prévaut, le nouveau président de la Chambre devra trouver des moyens de négocier avec l'administration Biden sur des sujets épineux tels que l'immigration et la réduction des dépenses, ce qui, selon le député Scott Perry, est nécessaire.
Il s'agit de s'assurer que nous avons un budget sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord, qui ne se contente pas d'augmenter de manière continue les dépenses, mais que nous nous approprions ensuite ce budget.
Le président Joe Biden a publié une déclaration pour féliciter M. McCarthy et dire qu'il est prêt à travailler avec les républicains quand il le pourra. De leur côté, les républicains de la Chambre des représentants souhaitent enquêter sur l'administration du président et sur les relations d'affaires de sa famille. Le chef de la minorité démocrate, Hakeem Jeffries, a déclaré à l'émission Meet the Press de NBC qu'il espérait pouvoir trouver un terrain d'entente avec le nouveau président de la Chambre dans l'intérêt du peuple américain.
J'ai hâte de m'appuyer sur les formidables réalisations de l'agenda Biden. Et si Kevin McCarthy est prêt à trouver un terrain d'entente, il trouvera des partenaires disposés à le faire parmi les démocrates de la Chambre.
Dans les rues de Washington, les Américains ont partagé leurs opinions sur le nouveau paysage du Congrès.
En tant que démocrate, je ne suis pas tellement enthousiasmé par la nouvelle direction, mais j'espère qu'ils pourront trouver un moyen de travailler sur certains des problèmes auxquels notre pays est confronté. J'espère en particulier qu'ils n'auront pas recours à la politique de la corde raide, notamment en ce qui concerne le plafond de la dette.
Je ne prévois pas beaucoup de changements en matière de politique étrangère, même si je pense que les républicains vont utiliser le pouvoir de la bourse pour essayer de freiner l'immigration illégale.
Il s'agit de sujets sensibles qui pourraient se traduire par des négociations difficiles, puisque les républicains détiennent une courte majorité à la Chambre des représentants dans cette 118e législature.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Georges et Léonard Sagnon a assuré la mise en onde. Au micro, Eric